Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir pour passer ce début de réveillon ensemble, avant de trinquer, avant de se souhaiter le meilleur et surtout la santé. On reste à vos côtés jusqu'à 20h. Vos derniers achats en fil rouge ce soir avec notre reporter dans une rue de Paris. Une journée aussi de balade pour profiter de la douceur toujours exceptionnelle de ce 31 décembre. Pour d'autres, il a aussi fallu faire la queue pour être testé avant de se retrouver et s'assurer que tout va bien en France, à l'étranger. Le réveillon sous toutes ses formes pendant ces 2 heures et même au-delà, parce que c'est aussi une tradition en ce 31 décembre. Les vœux du chef de l'État à 20h, on les suivra en direct ce soir, émission spéciale dès 19h50 avec nos journalistes et nos invités. Ces derniers vœux d'Emmanuel Macron sous la menace toujours du Covid et à 100 jours de la présidentielle, on en parlera à 18h20 avec mon invité, l'historien Jean Garrigue. Les autres titres de l'actualité maintenant avec ces hommes et ces femmes auxquelles RTL rend hommage depuis ce matin, ce soir d'ailleurs. Cyril Lignac a un message pour les soignants.
Je voulais vous remercier, vous les soignants, du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour les Français. Votre combat au quotidien, votre engagement et surtout votre gentillesse. Voilà, une très belle année 2022 et merci pour tout ce que vous faites. Je vous embrasse.
Des soignants dont certains seront sur le pont ce soir, on sera avec eux dans votre journal. Stéphane Geneste, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à toutes et à tous, absolument. Vous entendrez celles et ceux qui sont mobilisés ce soir et cette nuit à l'hôpital de Lens dans le Pas-de-Calais. Strasbourg sous couvre-feu ce soir à partir de 22h. Les mineurs de moins de 16 ans devront rester chez eux s'ils ne sont pas accompagnés d'un adulte. L'agence régionale de santé d'Île-de-France qui demande aux hôpitaux le maximum de déprogrammation possible. Et l'Allemagne qui arrête 3 de ses réacteurs nucléaires, ce qui représente la moitié de sa capacité nucléaire. Donc, le quintet cet après-midi, c'était à Vincennes. Il fallait jouer le 7, le 16, le 14, le 2 et le 4.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL sur le prix de nos meubles, entre pénurie et hausse des coûts de transport, sont-ils condamnés à augmenter? Plus 9% annonce déjà IKEA. 18h35, laissez-vous tenter dernière devant la télé. On sera déjà en 2022 avec de chouettes programmes à venir. Et tout au long de cette émission, le temps avec vous, Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir.
La tendance?
Eh ben, une tendance bien douce. C'est le verdict est tombé la semaine de Noël. Celle que nous venons de vivre a été la plus chaude depuis 1947. Ça se confirme et ça se confirmera encore tout au long du week-end.
Ça va continuer donc.
Oui.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal Marion Calais, Stéphane Geneste.
Et donc RTL continue de rendre hommage aux soignants après cette année, une nouvelle fois particulière. Et justement, beaucoup d'entre eux sont mobilisés ce soir. Bonsoir Franck Hanson.
Bonsoir.
Vous avez rencontré le personnel de l'hôpital de Lens dans le Pas-de-Calais. Et cette soirée de réveillon est évidemment spéciale pour ces soignants.
Oui, hein, et notamment au service réanimation, les bruits des respirateurs et des alarmes vont encore rythmer cette soirée alors qu'un lit sur trois est occupé ici par un malade Covid. Situation tendue mais pas saturée pour l'instant. Une nuit presque comme les autres donc pour le docteur Gaël Gazan, le chef de pôle.
Ça fait partie des missions. Donc nous, voilà la garde du 31, la garde du 24 décembre, c'est une garde comme une autre. On prévoit un petit gâteau, un petit amélioré, puis c'est selon le travail. Une situation qui est calme pendant une heure, deux heures, peut vite basculer avec l'arrivée d'un ou deux patients instables.
On marque le coup malgré tout entre collègues pour cette nouvelle année, même si là aussi la pandémie a tout chamboulé, confirme Dimitri Rabéi, un des soignants.
On est obligé de faire attention même entre soignants, hein. On n'est pas à l'abri de se contaminer nous-mêmes. Il n'y aura pas de bisous, il n'y aura pas de bonne année, et on fera ça en comité restreint, on sera à 4-5, on le fera en plusieurs fois, et puis d'habitude on donne aussi un petit bout de gâteau quoi, aux patients. Bah, là c'est fini tout ça maintenant. Bah, c'est toujours soutenu, hein. On a les unités qui sont pleines et 2022 s'annonce pas de meilleure augure pour l'instant.
Des soignants lensois qui doivent toujours pallier le manque de personnel, un peu lassés de gérer cette nouvelle vague. Alors Cécile, infirmière, émet simplement ce vœu pour 2022.
Les patients sont quasiment tous non vaccinés. C'est vraiment une lassitude, une fatigue. On est à bout, fatigué, mais toujours sur le front, sinon on ne ferait pas ce métier. Mais...
Et à l'aube de cette année présidentielle, ces blouses blanches aimeraient bien aussi faire partie du débat.
Franck Hanson, aux côtés des soignants de l'hôpital de Lens. Merci beaucoup, Franck.
Un nouvel an au travail, donc, pour ces soignants. Il sera plus festif pour d'autres, même pour certains retardataires.
Absolument, puisque certains attendent le dernier moment pour faire leur course du réveillon. Bonsoir, Nicolas Burnand.
Bonsoir.
Vous nous accompagnez toute la soirée pour le menu de ce réveillon. On vous retrouve dans une boucherie du 15e arrondissement de Paris.
Nicolas, on s'en doute, hein, les derniers acheteurs se pressent pour ces dernières courses du nouvel an.
Oui, la queue serpente ici jusque sur le trottoir. Chaque client attend patiemment son tour pour être servi. Corinne a fait ses tout derniers achats pour vivre ce réveillon.
Il y a un gros chapon farci de Bresse. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé, donc en espérant que ça sera le top. Pour le réveillon, je vais chez des copains et chacun apporte un truc, tous testés.
Beaucoup de clients sont passés avant par la pharmacie afin de réduire au maximum les risques. Pour cette soirée, entre amis ou en famille, son cabas dans la main, Fabrice fêtera avec ses enfants. C'est lui qui cuisine.
Ça, c'est pour le dîner des filles. Je vais leur faire des escalopes de veau à l'italienne. Très content de rester à la maison avec les enfants, en famille. Le passage à une nouvelle année, mais en espérant que ce soit une nouvelle année et pas une répétition de l'année d'avant et de l'année d'avant. Voilà, des choses simples.
Et pour oublier le temps d'une soirée, d'une nuit, la pandémie, les variants, la troisième dose, Jean-Jacques Le Boucher vous propose cette spécialité, c'est ce qu'il vend le plus ici.
Le bœuf à rôtir, notamment le filet. Il faut bien préchauffer le four à 240-250 degrés. Et après, selon la taille du morceau, laissez 25 minutes à 30 maximum si vous aimez la viande bien saignante. C'est faire plaisir.
Voilà, avec une bonne poêlée de légumes ou des pommes de terre isolées, au choix, selon vos goûts.
Joli menu donc, hein, Nicolas Burnon en direct pour RTL.
Nicolas Burnon, notre fil rouge pour ces courses de dernière minute du nouvel an que vous êtes sans doute en train de préparer. Donc 18h06 sur RTL et on l'a appris ce soir, ces tirs qui ont fait deux blessés cet après-midi dans un salon de coiffure en Moselle.
Dans le centre-ville d'Algrange, donc, une femme et son enfant de 3 ans ont été blessés, Guillaume Chiez.
Ouais, à 15h, les policiers sont appelés pour intervenir dans un salon de coiffure. Des riverains ont signalé plusieurs coups de feu. Sur place, une femme est légèrement blessée. Son fils, en revanche, a reçu une balle au niveau de la tête. Il est héliporté à l'hôpital de Nancy. Son pronostic vital engagé. L'auteur, lui, a pris la fuite. Il s'agirait du père de l'enfant. L'homme de 27 ans a été retrouvé à son domicile à Florange, à une dizaine de kilomètres de là. Il a tenté de mettre fin à ses jours et a été lui aussi transporté à l'hôpital. Pour l'heure, on ne connaît pas le motif de cette fusillade. Les policiers n'ont pas retrouvé de traces d'antécédents de violence au sein du couple.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Direction à présent Strasbourg avec un réveillon sous couvre-feu tout à l'heure à partir de 22h, hein, une mesure qui concerne les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés.
Oui, puisqu'en 2019, 60% des interpellés la nuit de la Saint-Sylvestre avaient justement moins de 16 ans. Donc en plus du déploiement de près de 2000 policiers, gendarmes et pompiers, la préfecture a pris cette décision radicale. Josiane Chevalier est la préfète du Bas-Rhin.
Si les mineurs sont seuls ou avec des frères et sœurs, ils seront ramenés au commissariat par les forces de l'ordre. Cet arrêté, il part d'un constat partagé avec la procureure de la République. La grande majorité des faits de violence urbaine de la Saint-Sylvestre émanent en effet de mineurs. L'hôpital n'a pas besoin de voir arriver aux urgences des mineurs qui se seraient blessés, soit en manipulant des mortiers, soit en mettant le feu à des véhicules. Et le sens de la mesure, c'est d'une part de responsabiliser les parents et deuxième point, c'est la protection bien sûr des mineurs, puisque les mineurs qui ne seraient pas récupérés au commissariat par leurs parents pourront faire l'objet d'une mesure de placement dans un foyer de l'enfance par mesure administrative ou judiciaire.
La préfète du Bas-Rhin, interrogée par Cindy Hubert.
Et dans toute la France, ce sont 95 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés cette nuit, 9 000 rien qu'à Paris.
Et pour faire respecter l'interdiction de rassemblement spontané face à la flambée des cas de Covid-19, d'autant que depuis ce matin, le port du masque dans les rues est de nouveau obligatoire dans de nombreuses grandes villes.
C'est le cas à Lyon, par exemple, ou encore dans la plupart de l'Île-de-France. Et cet après-midi, Julie Brault, l'heure était donc au contrôle dans le 6e arrondissement de Paris.
Oui, aux alentours du quartier latin, 5 policiers patrouillaient pour faire respecter le port du masque.
Bonjour messieurs, dames. Le port du masque est obligatoire dans toutes les rues de Paris, en extérieur, depuis ce matin.
Ici, la dizaine de passants qui se font aborder par les forces de l'ordre disent ne pas être au courant de cette nouvelle mesure.
Je savais pas du tout, j'avais pas entendu en fait, parce que je viens de rentrer à Paris, du coup j'étais pas au courant.
Pour moi, jusqu'à présent, en extérieur, on pouvait ne pas le porter, donc voilà. Merci aux agents de me l'avoir rappelé.
Alors en voyant les policiers, tous remettent bien sûr rapidement leur masque sur le nez, mais parfois à contre-cœur.
Je trouve que c'est inadmissible. Moi, je suffoque sur ce masque. 2 ans, on a fait ça.
Et maintenant, ils font recommencer parce qu'il y a des crétins. Alors là, il faut aussi amende pour ceux qui ne se vaccinent pas.
Mais même en extérieur, Louis admet que le masque est un moyen essentiel pour ne pas se transmettre le Covid-19.
Mais moi en plus, j'étais qu'à contact il n'y a pas très longtemps. J'ai Covid pendant les fêtes de Noël et tout. Je trouvais qu'en fait, c'était mieux que tout le monde, même les gens qu'à contact ou n'importe, aient le masque. Quoi. Parce qu'avec Omicron, apparemment, c'est vraiment encore moins si on l'a. Moi, j'avais aucun symptôme, donc je trouvais que c'était bien que les gens autour de moi l'aient aussi. Quoi.
Alors aujourd'hui, les policiers ont fait de la pédagogie. Personne n'a été verbalisé. Mais ils ont promis, je cite, de monter crescendo dans les prochains jours pour faire respecter cette nouvelle mesure.
Reportage de Julie Brault dans les rues de Paris pour RTL. Et puis à noter, après la Savoie et la Haute-Savoie, le port du masque est désormais obligatoire dans les centres-villes de la plupart des stations de ski de l'Isère et des Hautes-Alpes. C'est depuis ce matin.
Masque à porter, gestes barrières à respecter, aérer aussi pendant ces fêtes de fin d'année, des gestes barrières indispensables à nouveau, alors que la situation dans les hôpitaux se dégrade, notamment en Île-de-France. Plus de 4000 patients désormais hospitalisés pour Covid, dont 732 en réanimation.
Une situation très inquiétante pour l'Agence régionale de santé de la région qui demande, Virginie Guérin, de déprogrammer le maximum des activités chirurgicales et médicales.
Voilà, de repousser dès lundi le maximum d'opérations qui peuvent l'être, prothèses de hanche, chirurgie réparatrice, tout ce qui n'est pas vital. Certains services doivent être préservés, la cancérologie, les services de pédiatrie, de chirurgie cardiaque et les transplantations, mais d'autres vont être mises à l'arrêt pour que le personnel soit redéployé pour accueillir les malades du Covid et notamment en soins critiques. Alors on est loin pourtant des chiffres des vagues précédentes. Il y avait 3 fois plus de malades hospitalisés lors de la première vague, 2 fois plus lors de celle du printemps dernier, mais les hôpitaux sont tellement mal en point, ils manquent de personnel. Les chefs d'établissement vont devoir s'organiser, sachant que le pic de la vague n'arrivera sans doute pas avant fin janvier, selon l'Institut Pasteur. Il va falloir tenir avec un personnel fatigué et qui lui aussi est malade du Covid, mais pas seulement. En Île-de-France, le seuil épidémique de la grippe a été franchi cette semaine.
Explication et décryptage signé Virginie Guérin pour RTL.
Marion Calais. RTL Soir.
18h12, la suite de votre journal Stéphane Geneste avec les vœux d'Emmanuel Macron dans un peu moins de 2 heures maintenant, des vœux auxquels se sont déjà pliés de nombreux candidats à la présidentielle.
Et oui Marion, à chacun il va de ses vœux. Thomas Després, bonsoir.
Bonsoir.
Vous les avez tous regardés, tous écoutés et le moins que l'on puisse dire c'est que certains ont rivalisé d'imagination. Hein.
Ouais, et à ce jeu-là c'est Yannick Jadot, le candidat des écologistes qui remporte la palme et de loin dans sa vidéo de vœux. Il s'y imagine le 31 décembre 2026, à cette date, il achèverait son premier mandat de président.
Pendant ce quinquennat, nous avons prouvé qu'ensemble, nous, le peuple français, pouvions déjouer les pires pronostics, faire le choix d'une société plus écologique, plus juste et plus apaisée.
Alors, ils ont mis le paquet sur la mise en scène. On peut y voir son portrait à l'Élysée, un cerf et des panneaux solaires dans le jardin du palais. Et puis, l'équipe de Yannick Jadot a recyclé des phrases cultes des politiques. On peut y lire en sous-titre « Manger des pommes bio »,« Les amiches au pouvoir »,« La République, c'est vous » ou encore « Rien de tel que des écolos pour faire le ménage ».
Alors ça, c'est pour la référence à Valérie Pécresse. On imagine qu'elle aussi, elle a fait ses vœux.
Oui, pour elle, c'est beaucoup plus classique, hein, debout devant des drapeaux français et européens.
Mon vœu, c'est qu'au printemps prochain, le rendez-vous présidentiel soit celui des convictions et des vraies solutions pour la France.
Alors, on a aussi eu droit au vœu d'Anne Hidalgo, 2 fois même dans la journée, en tant que maire de Paris et en tant que candidate. Et puis, il y a eu ceux d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, 2 salles, 2 ambiances. Le premier devant un buste de Napoléon et la seconde devant un bouquet de fleurs.
Laissons derrière nous le doute. Adieu la faiblesse, la démission et la soumission. Adieu Emmanuel Macron. Bonjour la France.
Je vous invite non pas à regarder ou à attendre l'élection présidentielle, mais à la faire.
Voilà, et je vous en ajoute un dernier. Jean-Pierre Raffarin, lui, il n'est pas candidat, mais il adresse ses voeux aux prétendants, à Christiane Taubira, qui tente l'union de la gauche. Il souhaite le leadership en ambulance.
Des vœux qu'on peut retrouver évidemment, Thomas, sur le site rtl.fr.
Angela Merkel l'avait décidé il y a 10 ans. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. L'Allemagne a réduit de moitié sa capacité nucléaire ce vendredi.
Ah oui, 3 réacteurs nucléaires ont été mis hors circuit tout à l'heure. Violette Bonneba, vous êtes la correspondante de RTL à Berlin et l'objectif est clair pour les autorités, mettre fin au nucléaire en Allemagne.
Pour le gouvernement allemand, le nucléaire est une énergie du passé, dangereuse, trop coûteuse et génératrice de déchets difficiles à stocker. L'Allemagne sort donc du nucléaire selon le calendrier prévu. 3 centrales fin 2021, puis les 3 dernières du pays fin 2022. Leur arrêt ne sera pas compensé par davantage de charbon. L'Allemagne veut en finir, là aussi, avec un objectif de sortie définitive de la houille dans 8 ans. En échange, Berlin prévoit de recourir un peu plus au gaz, mais surtout aux énergies renouvelables. L'éolien et le solaire couvriront 80% de la production d'électricité en 2030, contre 42% aujourd'hui. Pour cela, il va falloir construire plus d'un millier de nouvelles éoliennes par an. L'installation de panneaux solaires doit devenir obligatoire sur tous les bâtiments d'entreprise. C'est ce futur mix électrique sans nucléaire qui devra permettre au pays de tenir ses engagements climatiques. Un défi immense et qui divise. Un Allemand sur deux préférerait prolonger la durée de vie des dernières centrales nucléaires.
Précision signée Violette Bonneba, correspondante de RTL en Allemagne.
Voilà enfin une image qui a attiré notre attention en ce 31 décembre. C'était sur la pelouse du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Ça s'est passé donc tout à l'heure. Kylian Mbappé, tout seul, qui s'entraîne.
Surprenant pour le moins, oui, hein, puisque la reprise officielle des entraînements pour le PSG, c'est demain. Le champion du monde qui a donc décidé de prendre un peu d'avance sur ses camarades, Baptiste Durieux.
Absolument, un selfie devant le logo du club et quelques vidéos d'entraînement dans sa story sur Instagram. Kylian Mbappé a voulu faire savoir qu'il était bien de retour et surtout 24 heures avant tout le monde, seul au milieu du désert sur la pelouse du Camp des Loges avec une poignée de membres du staff parisien. L'attaquant français a effectué des courses et quelques exercices avec ballon pour se remettre en jambes. Alors un coup de communication peut-être, puisque avec Kylian Mbappé, rien n'est laissé au hasard, surtout dans une période où l'on s'interroge sur l'avenir du français. Partira, restera Real Madrid ou prolongation de contrat, peu importe, Kylian Mbappé veut montrer son professionnalisme, sa totale implication dans le projet, être irréprochable, inattaquable sur son attitude. Son message pour les supporters et le grand public est clair, l'important n'est pas le prochain contrat, mais plutôt la victoire en Ligue des Champions avec Paris et ce rendez-vous face au Real Madrid le 15 février que Kylian Mbappé manifestement a déjà commencé à préparer.
Précision de Baptiste Durieux du service des sports de RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et on va parler gros sous et surtout coup de chance aujourd'hui. Ou plutôt, quand chercher du papier cadeau pour Noël dans son armoire vous fait gagner beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. C'est arrivé à un couple en Australie. Les deux amoureux ont finalement trouvé un joli cadeau à défaut du papier. Un ticket à gratter vieux de 2 ans, sauf qu'il était gagnant, valeur de 100 000 $, environ 65 000 €. Alors en France, ça ne pourrait pas arriver, hélas, puisqu'on a 30 jours pour récupérer le montant ou du moins de se signaler auprès de la Française des Jeux. Et on reste en Australie maintenant. Puisque ça y est, les Australiens sont déjà en 2022 les chanceux. Et comme d'habitude, Sydney a accueilli la nouvelle année avec un feu d'artifice.
La bonne année déjà en Australie. Et on la fêtera aussi. On est déjà en 2022 du côté de la Nouvelle-Zélande également.
Exactement.
Et on sera tout à l'heure dans On refait nos régions avec un de ces expatriés français qui nous accompagne tous les vendredis soirs dans On refait nos régions sur RTL. Un Occitan, un Catalan même précisément.
Oui, Catalan. Il s'appelle Serge.
Exactement, Serge qui a fêté la bonne année il y a quelques heures. Le temps tout au long de cette émission avec vous, Valérie Quintin. Aujourd'hui et demain, donc encore, toujours ouais. De la douceur.
Exactement, on garde des températures très très douces, même si on va quand même noter une baisse assez sensible demain pour les régions de l'Est, mais vraiment dans l'Est uniquement. Donc le matin, un débrouillard en pagaille, notamment dans l'Est ou encore sur les bords de la Méditerranée, place au soleil partout, assez rapidement dans le courant de la matinée. Et dans l'après-midi, comme aujourd'hui d'ailleurs, on va avoir quelques nuages qui vont arriver peu à peu entre la Bretagne et le Cotentin. Ça pourrait aller jusqu'à l'averse sur la pointe Finistère dans le courant de la journée. Quant aux températures, le matin, 2 degrés à Mulhouse, 7 degrés à Tours et à Nîmes, 11 à Caen, ça bouge pas beaucoup. Dans l'après-midi, comptez 7 degrés à Ambérieu, 13 au Havre et à Montélimar, 14 à Paris, 15 à Bourges et à La Rochelle, 16 pour Ajaccio et un magistral 23 degrés à Tarbes.
Incroyable, toujours incroyable, cette oui. Fin et ce début d'année 2022. Donc à tout à l'heure, Valérie Quintin.
La brigade RTL Soir.
Dans quelle maison ne s'est-il pas invité avec ses bibliothèques Billy ou ses étagères Kallax? IKEA s'est fait une place chez nombre d'entre nous, pratique et pas cher, sauf qu'aujourd'hui le géant suédois est contraint de revoir ses prix à la hausse, plus 9% annoncé. Trois questions donc sur cette augmentation dans notre brigade RTL. Arnaud Touche, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir.
D'abord, pour quelles raisons IKEA augmente ses prix ?
Eh bien, à cause de l'envolée du prix des matières premières, évidemment. Le cours du bois, de la colle ou encore le coût des transports, tout a simplement explosé depuis le début de la pandémie. La colle, par exemple, elle est passée de 300 euros la tonne à 800 euros. Rien qu'en un an, me confie un assembleur, le prix des conteneurs a été multiplié par 4, voire 5, et les pénuries sont là sur certains produits très spécifiques. Voilà pourquoi ça augmente, Marion.
Plus 9%, c'est beaucoup, IKEA. IKEA ne pouvait plus absorber ces hausses de coûts désormais.
Ça devenait difficilement tenable. En fait, il faut bien comprendre qu'avant qu'une hausse touche le consommateur final, eh bien, il se passe parfois plusieurs mois. Pour un meuble, par exemple, il faut de la colle, évidemment. Pour l'assembler, le fabricant de colle, il augmente son prix quand il le vend à l'assembleur, évidemment. L'assembleur, il tente de maîtriser la hausse, mais à un moment, il ne peut plus. Donc, du coup, il répercute cette hausse sur le distributeur qui, lui, va vendre le meuble final en magasin. Et à moins de réduire fortement sa marge, eh bien, le magasin est obligé d'augmenter les prix sur le prix final pour le client final. Voilà pourquoi même les grandes chaînes qui négocient pourtant de très gros volumes comme IKEA, eh bien, n'ont plus vraiment le choix et les hausses s'affichent désormais quelques mois plus tard.
Et alors, est-ce que les autres enseignes d'ameublement vont être touchées et vont annoncer des hausses de prix comme ça prochainement, Arnaud ?
La réponse est oui, y compris en France, car par exemple, il y a besoin beaucoup de produits chimiques pour produire certains matelas. Vous avez par exemple la mousse qui est à l'intérieur des matelas. Eh bien, en un an, son prix l'a augmenté de 130%. Et il n'y a pas énormément de fabricants de mousse dans le monde, par exemple. Eh bien, résultat, tout le monde est impacté, les grands comme IKEA et les plus petits en France. Et puis, il y a un autre problème, notamment en Europe, c'est le prix de l'énergie. Les cours du gaz et de l'électricité pour les professionnels s'envolent et forcément, cela a un impact sur le prix final. Seul point positif, tout de même, qui pourrait limiter les hausses, les circuits courts avec des meubles français qui sont fabriqués avec des matériaux évidemment plus proches de l'usine et donc moins chers à transporter.
Les explications de la brigade RTL. Merci Arnaud Touchin. Une petite pause et dans un instant, des vœux à 100 jours de la présidentielle d'Emmanuel Macron ce soir. On les suivra en direct sur RTL. On va commencer à en parler juste après ça.
Marion Calais, RTL Soir. RTL Soir avec Marion Calais.
2021, dernière. Dans moins de 2 heures, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français, les derniers de son quinquennat, et on va les évoquer, ses vœux, avec nos expertes ce soir. Aurélie Arbemont du service politique de RTL, Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Bonsoir à toutes les deux. Aurélie, entre le Covid cette année et l'an dernier, les gilets jaunes les années précédentes, Emmanuel Macron, il est clairement condamné à des vœux de crise.
Il va faire un 4 à la suite ce soir, effectivement, puisque 2018, vous le disiez, on était en pleine crise des gilets jaunes. 2019, le pays est bloqué par les grèves contre la réforme des retraites. 2020, Covid. 2021, encore Covid. Donc ce soir, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il aurait sans doute espéré pour ses derniers vœux avoir quelque chose de plus optimiste, puisque l'an dernier, il avait promis un nouveau matin et qu'à partir du printemps, ça irait beaucoup mieux.
Alors
c'est vrai qu'il y a eu l'espoir de la vaccination. On a plus de 50 millions de Français vaccinés. Il faut se remettre l'année dernière, il n'y avait quasiment que Morissette qui était vaccinée le 31 décembre. Donc là, le vaccin a permis quand même de vivre une grande partie de l'année un peu plus normale que d'habitude. Mais effectivement, Emmanuel Macron ne va pas y couper ce soir encore des vœux de crise.
Des vœux de crise après une année compliquée, des prochains mois qui s'annoncent encore compliqués sous la menace du variant Omicron. Emmanuel Macron, il a quand même déjà un petit peu commencé à faire le bilan. Hier, il y a eu cette vidéo qui a été diffusée sur son compte Twitter. C'était l'année 2021 avec un message tout en musique et des musiques un peu grandiloquentes. Pour le coup, le bilan, c'est l'occasion aussi de ses voeux.
C'est l'occasion de ses voeux. Effectivement, Emmanuel Macron a commencé à faire le bilan hier soir. Ce qui était très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il n'y avait pas du tout que le Covid. Il a voulu montrer que la France ne s'était pas cantonnée à cette crise dont on ne voit pas le bout finalement, puisqu'il a choisi des images des vainqueurs aux Jeux Olympiques. Il a choisi des images de la panthéonisation de Joséphine Baker, des moments de communion avec les obsèques de Jean-Paul Belmondo. Donc voilà, il a voulu montrer que le récit du quinquennat et le récit de l'année, c'était pas uniquement cette crise. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde vit sous Covid en se disant comment on va vivre les prochaines semaines, parce qu'il y a des nouvelles restrictions, etc. Donc il a voulu commencer à impulser dans l'esprit des Français que non, le quinquennat d'Emmanuel Macron et l'année 2021, ça n'est pas que le Covid, il s'est passé des choses plus positives ou au moins des moments de communion, alors qu'on voit quand même qu'il y a un peu de tension dans la dans la société. Mmh.
Et quand on entrouvre la porte de 2022, il y a aussi évidemment, Bénédicte Tassard, la question de l'Union européenne, parce que demain, la France prend la présidence tournante de l'Union européenne pour les 6 prochains mois.
Oui, vous allez le voir hein, ce soir, tous les bâtiments publics en France, bon, on a vu ici à Paris la Tour Eiffel, mais dans toute la France vont être en bleu, illuminés en bleu pendant un mois. Donc cette présidence tournante de l'Union européenne, elle tombe pendant la campagne électorale. C'est un hasard, c'était pas choisi parce que bon, le Brexit a fait que bon, le Royaume-Uni n'est plus de la partie, donc le calendrier a été bousculé. Mais Emmanuel Macron pouvait demander à ne pas prendre cette présidence, il pouvait changer son tour. Il a décidé de rester et de conserver son tour, et parce qu'il y voit une opportunité de parler justement de façon positive. L'Europe, c'est vrai que les Français ne sont pas très attachés à l'Europe pendant la campagne électorale, j'entends. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un facteur décisif pour aller voter, l'Europe. Mais justement, le président veut en profiter pour en faire un facteur positif, notamment avec le plan de relance. Ça, c'est positif. 39 milliards d'euros touchés avec le plan de relance, des investissements verts dans toute la France, ça peut être un message positif ce soir.
Ouais, le message d'Emmanuel Macron sur l'Europe, très attendu. Alors il y a une phrase évidemment qu'on n'aura sans doute pas, Aurélie Herbemont, c'est celle de la campagne et de l'annonce de candidature. En fait, quand on regarde les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, les vœux, on évoque peut-être un peu la campagne présidentielle.
Chacun l'avait fait à sa manière, Nicolas Sarkozy. Puisque François Hollande, la dernière fois, la question ne se posait pas, puisqu'il avait renoncé à être candidat dès début décembre. Donc ses voeux, c'était vraiment les derniers, et il savait, il était conscient, et tout le monde savait que c'était les derniers voeux. Nicolas Sarkozy, lui, il l'avait dit clairement en 2011, dans 5 mois, il y a une élection présidentielle, ce sera un moment important, mais d'ici là, je vais gouverner, agir jusqu'au bout. Et Jacques Chirac l'avait fait juste par allusion. Valérie Giscard d'Estaing aussi avait juste parlé d'une année 80 qui serait difficile, mais il n'avait pas fait d'allusion. Donc évidemment, ce soir, on va guetter quels sont les mots qu'utilise Emmanuel Macron pour parler de l'échéance qui, effectivement, est dans 100 jours aujourd'hui.
La petite référence que l'on guettera et ses voeux que l'on suivra avec vous, Bénédicte Tassard, avec vous, Aurélie Herbemont et les journalistes de la rédaction de RTL. Tout à l'heure, émission spéciale dès 19h50. Les voeux à 20h en direct et puis ensuite les analyses et les réactions de nos invités également. Avant cela, je vous remercie toutes les deux. Avant cela, dans un instant, RTL Soir continue avec, c'est quand même le réveillon et un peu plus de 5 heures de la nouvelle année. On va continuer de faire les courses. Vous êtes encore nombreux, et oui, à faire vos achats. C'est vrai que le Covid a aussi perturbé pas mal de repas de fête prévus ce soir. Et puis dans LVT dernière, en partie tournée aussi vers 2022 avec des programmes télé alléchants qui nous attendent.
Marion Calais, RTL Soir.
18h29.
RTL Soir avec Marion Calais.
Vous écoutez RTL Soir et on refait tout de suite un point sur les titres de l'actu, Stéphane Genest.
95 000 policiers et gendarmes mobilisés pour la nuit du Nouvel An, dont 9 000 à Paris. Dispositif pour faire respecter notamment l'interdiction de rassemblement face à la flambée des cas de Covid. Les agents devront également s'assurer du port du masque dans les rues, comme dans la région Île-de-France, puisque c'est obligatoire depuis ce matin. À Strasbourg et dans sa banlieue, c'est couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans à partir de 22h. Interdiction de sortie s'ils ne sont pas accompagnés d'un adulte. Entre 600 et 650 000 volailles abattues en France depuis le premier cas de grippe aviaire détecté dans un élevage fin novembre. Annonce faite tout à l'heure par le ministère de l'Agriculture. Un salon de coiffure d'Algrange en Moselle, cible de tir par balle cet après-midi. Un enfant de 3 ans est gravement blessé, tout comme sa maman. L'auteur de ces coups de feu n'a pas été retrouvé. Les soupçons se portent sur l'ex-conjoint de la victime. Et puis en football, la Ligue 1 est perturbée. Angers a obtenu le report de son match contre Saint-Étienne, prévu pour le 9 janvier. Il y a au moins 19 cas de Covid-19 au sein de l'effectif angevin.
Merci Stéphane, bonne soirée. Non, d'ailleurs on vous retrouve dans un instant pour refaire les régions. D'abord on va voir le temps avec vous, Valérie Quintin. Toujours de la douceur.
Ouais, c'est vrai, on va garder encore la douceur demain. On va avoir du soleil en plus pratiquement toute la journée, pratiquement partout en France, avec quelques brumes côtières tenaces sur les bords de la Méditerranée et une incursion nuageuse toujours un petit peu plus dense sur le nord-ouest dans le courant de l'après-midi, entre la pointe bretonne et le Cotentin essentiellement, avec quelques gouttes de pluie sur le Finistère. 3 degrés à Toulouse au réveil demain matin, 4 à Nevers, 7 à Marseille, 9 à Rennes. Dans l'après-midi, comptez 13 degrés à Grenoble, 14 à Paris et Nice, 15 à Nantes, 17 degrés à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Bordeaux, 23 degrés à Pau. Il fera encore assez doux dimanche, mais on va avoir un temps beaucoup plus maussade sur la moitié nord.
Merci Valérie Quintin.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Dans les dessous de l'actu, notre fil rouge du soir, les dessous du réveillon à vos côtés pour vos derniers achats. Avec vous, Nicolas Burnand, bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouve dans la bien nommée rue du Commerce à Paris, devant l'étal d'un écaillé où les clients s'enchaînent.
Oui, sur le trottoir, les étals débordent de crevettes roses, de bulots, de coquilles Saint-Jacques et surtout d'huîtres, produits phares incontournables de ce réveillon. Étienne, le patron, nous fait la présentation.
Là, on a la petite pleine mer qui restait en pleine mer, qui a été affinée directement en pleine mer. Après, vous allez avoir la Saint-Vaast, qui va être une huître un peu plus iodée, avec une jolie lèvre noire, avec une petite couleur comme ça, turquoise, qui est très noble, très belle. Le nec le plus ultra, c'est la Utah Beach. Donc Utah Beach, c'est une baie la plus belle du monde pour faire les huîtres, avec un ressac, un plancton très fort, ce qui permet, quand on les laisse 6 mois dans cet endroit-là, elles vont se muscler. Les pieds vont grossir et on va avoir un vrai goût de noisette, comme on peut trouver dans une Saint-Jacques, c'est le même pied en fin de compte. Hein.
Alors, on goûte.
Donc regardez comme c'est plein. Ouais, elle est bombée, elle est pleine, elle est magnifique, on ne peut pas faire mieux, là c'est une photo. Hein. Voilà, mâchez bien, mâchez longtemps. Vous entendez les mouettes?
Ouais, là je les entends.
Vous entendez les mouettes, là, je vous avais dit. C'est magique, hein.
C'est délicieux.
Puis ça fait partie de notre histoire de brasserie où les gens viennent toute l'année manger des fruits de mer. Et puis le jour de Noël, ils viennent dans leur brasserie chercher leur plateau. C'est emballé très joliment avec un papier comme un bouquet de fleurs. Et voilà, laisser des cadeaux que les gens ramènent chez les uns les autres. Et poser ça sur la table, ben voilà, vous avez les trois quarts du réveillon qui est signé déjà.
Depuis ce matin, plus de 120 plateaux ont déjà été préparés avant d'être emballés, prêts à être emportés. Son petit couteau à la main, Hassan n'a pas arrêté de la journée.
Ben moi, je prends ça sur ma main gauche et j'essaie d'y aller pour trouver le nerf, pour pouvoir le couper plus facilement, pour pouvoir récupérer 100% de la chair de l'huître. Voilà, en les soulevant légèrement et je coupe le nerf, vous voyez. Et comme ça, j'ai mon huître excellente et pour pouvoir poser dessus.
Aujourd'hui, vous allez en ouvrir combien ?
3000 pièces. Ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens, de leur donner du plaisir à table, à leur famille, à leur entourage, à leurs amis, tout ça.
Une dégustation et un cours d'ouverture pour vous, Nicolas Royal, ce début de réveillon. Comment les acheteurs que vous rencontrez appréhendent ce moment ?
Eh bien, plutôt sereinement, les clients ont envie d'oublier un peu cette pandémie, le temps d'un repas, d'une soirée, d'une nuit. Catherine a acheté une demi-douzaine d'huîtres pour les déguster avec ses amis.
Moi, j'ai acheté des Saint-Vaast. J'adore les Saint-Vaast et ici, c'est super trop bon. C'est là, forcément la convivialité. Puis on passe en 2022 en espérant que ça sera moins merdeux que 2021 et 2019, donc et 2020.
C'est si j'ose vous demander, vous êtes combien pour les fêtes ce soir?
Ah, moi, je suis juste avec mon amie. On est toutes les deux avec ma gardienne de l'immeuble avec qui j'habite depuis 30 ans. Ah, et voilà ma meilleure copine Archie qui arrive.
Voilà une fête entre amis, entre voisins, en famille, souvent en petit comité. Beaucoup se sont fait tester, comme François. Il espérait revoir sa brochette de proche. Il passera finalement sa soirée seule avec sa femme testée positive.
Ouais, léger changement de programme, parce que ça va être à 2 au lieu de 20 ce soir. Bah, pour moi, c'est bon, je suis négatif, mais ma compagne est positive. Donc on est coincé, on respecte. Et voilà, tant pis, ils font sans nous.
Nouvel an un peu spécial cette année, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaitez pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter?
Une année moins chaotique, moins de stop and go, une vie sans masque un petit peu, c'est pas mal non plus. Gérable par tous, ouais, voilà. Garder un maximum de désir pour la famille, pour soi, retrouver le goût des autres.
Et d'abord donc le bon goût des huîtres pour prendre le large vers une année 2022, espère-t-on ici, avec moins de Covid. Les derniers retardataires, encore 1h30 pour venir chercher leur plateau de fruits de mer. Après, il sera trop tard.
Les dessous du réveillon du nouvel an et les derniers achats avec Nicolas Burnand, rue du Commerce à Paris pour RTL.
RTL Soir, les dessous de l'actu,
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et en cette soirée du Nouvel An, ce RTL Soir continue au plus près de vous et devant la télé à présent avec vous, Isabelle Morini-Bosque, bonsoir.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce que vous me proposez ce soir, les programmes du week-end ou un bilan de l'année écoulée? C'est vrai que c'est le moment.
Et ben finalement, un mix des deux. Okay. Je vous dis tout. Hein. Je voulais faire un bilan complet de 2021. Mmh. J'ai partiellement changé d'avis en mélangeant ce qui a compté dans l'année 2021, mais qui est encore d'actualité ce week-end. Prenez Lupin. C'est la deuxième série préférée des Français en SVOD après La Casa de Papel.
Sur Netflix.
Encore accessible sur Netflix. Alors moi, je vous dis tout de suite, hein, je suis pas fan. Elle aurait été infiniment plus critiquée sur TF1 ou sur M6, ça c'est dit. L'autre phénoménal succès encore visible durant les fêtes sur Salto, c'est évidemment HPI avec Audrey Fleurot sur TF1, 12 millions de téléspectateurs. TF1 qui détient aussi le record du plus grand bid 2021. Vous voyez ce que c'est ?
Non, pas du tout.
Eh bien, c'est District Z, déprogrammé, diffusé le samedi et déprogrammé en catastrophe. Vous auriez donc dû le voir demain sur la Une. Vous verrez un bêtisier à la place face à un programme que j'adore, mais que j'adore sur W9, La Petite Histoire de France, vous connaissez ?
Pas du tout.
Je vous ferai un résumé. Je vous dirai, vous voir rien que pour vous le raconter, épisode par épisode. C'est une fiction d'humour historique racontant le quotidien des cousins de grandes figures de notre histoire. Le chevalier cousin de Jeanne d'Arc, le cousin en disgrâce de Louis XIV, la cousine aubergiste de Napoléon Ier qui passe son temps à l'attendre. Or, figurez-vous que ce format court, lancé en 2015 sur W9, arrêté faute d'audience suffisante en 2018, a toujours été rediffusé ensuite et c'est là qu'il est devenu culte. Le public en a fait toute une histoire, au point que W9 a relancé cet été la production, j'avais milité pour, vous pensez, en rajoutant l'époque gallo-romaine. Et j'ai fait part de ma satisfaction au producteur, un certain Jamel Debbouze. Oui.
Ça me fait vraiment plaisir, je sais que c'est sincère, et je suis très heureux comme toi, parce que j'adore cette série. On a eu la chance d'avoir un public derrière nous, comme toi, qu'on commençait à kiffer les personnages, qu'on adorait ce concept de raconter la grande histoire par la petite porte. On a été de plus en plus nombreux, et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le choix, je crois. Moi, franchement, l'histoire de France, ça me passionne vraiment, il y a tout dedans. Je te fais une confidence, comme je suis producteur, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux, tu vois. Eh ben, je me suis écrit un petit personnage. C'est un vrai personnage que je vais jouer avec Alban, je suis ravi.
Alban Ivanov, le cousin de Jeanne d'Arc.
Alors ça, c'est pour quand ?
Alors ça, c'est donc demain.
D'accord.
Sur W9, mais ce soir, j'ai craqué, certes pour le réveillon de la 2 à Chantilly, pour les chevaux, mais surtout pour une spéciale, encore sur W9, qui s'appelle « Tout le monde chante », sous-entendu contre le cancer. Il s'agit de faire chanter ensemble des artistes dissemblables, voire dissonants. Un chanteur plus un animateur. Ah. Tiens, tentez de trouver qui chante là. It breaks my heart 'cause I know
you're the one for... Aucune idée.
Alors, la chanteuse, c'est Imani.
Ouais.
Et l'animateur, c'est Nikos Aliagas.
Pas mal.
Alors, vous verrez aussi en Village People, Mundir, plus Nelson Monfort, plus Bruno Guillon, plus Mac Lesguy. Ça, je vous laisse découvrir.
Ça vaut le détour ou pas? Vous souriez.
Ça vaut le détour, oui. Et tiens, un dernier pour la route, le premier chez nous en ce moment le matin. En soufflant dans les trompettes, ou à force de murmure. Alors, le chanteur qui sait chanter, c'est Jérôme Anthony.
Ouais.
Et l'animatrice, c'est Ophélie Meunier. Donc ce n'est pas le métier qui chante juste.
Waouh.
Voilà.
Moi, ça chapeau, fait... Ophélie Meunier.
Cette émission a fait ma joie.
Mais on va faire une chorale dans cette rédaction avec Agnès Bonfillon, Ophélie Meunier. On va pouvoir organiser tout ça.
Agnès Bonfillon qui chante dans un album que Laurent Marsic a présenté mercredi.
Cette semaine, exactement.
Et un conte pour enfants.
Et elle a une très jolie
voix, Agnès
Bonfillon. Nous, on ne va pas s'y tenter. Hein, on
non,
va plutôt célébrer la bonne année.
Vous savez pas.
Tout à l'heure. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Très bonne année à vous. Très,
très
bon réveillon.
Très bonne année à vous. Bravo.
RTL Soir se poursuit. On va refaire nos régions dans un instant, dans le Loir-et-Cher, en Aveyron, en Provence et en Nouvelle-Zélande.
On refait nos régions. C'est dans un instant sur RTL.